Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans Parole protestante. C'est l'émission de l'Église protestante unie de Corse. C'est Christiane Jo qui vous parle. Je suis très heureuse de me retrouver encore avec vous pour parcourir les Écritures, les Saintes Écritures, en compagnie de notre pasteur, Marie-Odile Wilson. Bonjour Marie-Odile.
Bonjour Christiane, bonjour à tout le monde. Eh bien voilà, nous allons poursuivre, terminer ce que nous avions démarré la semaine dernière. On était resté un petit peu prise par le temps et donc on avait coupé une partie qu'on aurait peut-être dû faire jusqu'au bout. Mais bon, quand on échange comme ça, de temps en temps, on part très loin. Et donc on va repartir un tout petit peu en arrière juste pour la lecture, pour histoire que les choses soient en tête pour nos auditeurs et nos auditrices. Alors donc nous sommes bien sûr toujours dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 25.
Et si vous invoquez comme père celui qui, sans partialité, juge chacun selon son œuvre, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, celui du Christ, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, de telle sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur, avec constance, vous qui avez été engendrés à nouveau par une semence, non pas corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu, vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé.
Voilà, alors nous reprenons, nous poursuivons par rapport à ce que nous avions fait la semaine dernière, et donc au verset 20, puisque nous étions arrêtés au verset 19, donc il est question de cette rédemption de la nouvelle Pâque, hein, celle dont Pierre nous parle, et il nous dit que ce n'est pas un événement fortuit, que la mort de Jésus n'est pas un accident. Il est mort pour nous parce que c'était là que, depuis les premiers commencements, Dieu voulait conduire notre histoire. Alors, c'est évidemment quelque chose qui est difficile à entendre pour nous aujourd'hui.
C'est pas facile.
Non. Parce que ce dont parle Pierre, c'est bien de prédestination. Mais cette prédestination ne peut être que pour le Christ et à travers lui. Car finalement, ce que Dieu a décidé de toute éternité, ce n'est pas la mort du Christ, en fait. C'est notre salut, c'est le salut de l'humanité. Un salut qui se réalise par le don qu'il fait de son Fils, peut-être, mais de lui-même, du coup. Ce faisant, il nous laisse libres, puisqu'on est toujours libre de refuser ce qui nous est donné. C'est quelque chose qu'il faut regarder vraiment dans le sens de Dieu se livre lui-même en réalité.
Oui.
Depuis Pâques, selon cette compréhension, nous sommes, depuis cette première Pâques, la résurrection, nous sommes donc à la fin des temps. La fin des temps a commencé à ce moment-là. Les jours peuvent continuer de couler, mais ils ne remettent pas en question la décision dernière de Dieu. Tout est accompli. C'est ce que le Christ a dit sur la croix. La rédemption a été réalisé à ce moment-là, et depuis lors, chacun et chacune peut dire « c'est pour moi que Dieu a payé le prix ». C'est vrai que cette compréhension est difficile, hein, mais néanmoins, c'est cela qu'il faut entendre, et ça devrait être libérateur, hein, si on le comprenait parfaitement.
Oui.
Au verset 21, on peut entendre que cette mort donc n'est pas la simple annulation d'un passif écrasant, hein, un espèce de coup de gomme là. La résurrection du Christ atteste qu'un renouvellement miraculeux est possible. Hein, c'est pas évident, mais le miracle existe. Ce renouvellement peut advenir, et sa propre glorification nous fait deviner la splendeur de ce qui nous est promise à chacun et chacune d'entre nous.
Alors, c'est quand même quelque chose de, j'allais dire extraordinaire,
oui.
Mais c'est à la fois épouvantable et extraordinaire que ça passe par la croix,
oui.
Par un supplice,
ah, oui,
infamant, par toute
oui.
cette douleur.
Oui, oui. Mais c'est justement cet antagonisme entre la croix et la résurrection, entre oui. ces ténèbres de la plus grande profondeur et cette glorification inouïe, que la glorification, que la croix vide peut jaillir et rayonner. Hein, mmh. En tout cas, tout ça, c'est l'objet de notre espérance. Hein. Mais donc pour l'avenir, pour plus tard, mais par la foi, nous pouvons en découvrir déjà la réalité présente. Hein. On y revient toujours, hein, ce ici et maintenant, ce déjà là et pas encore. Il y a quelque chose de cette réalité qui est déjà présente pour nous, en nous et dans le monde. L'espérance et la foi sont donc les deux composantes de la vie chrétienne auxquelles Paul fort justement rajoutera l'amour, mais on verra très vite que Pierre est tout à fait dans cette lignée aussi, hein, donc foi, espérance et amour. Pierre met Dieu au cœur du dispositif, c'est lui qui prédestine le Christ à s'offrir en rançon, mais c'est lui aussi qui le ressuscite et le glorifie. Donc, c'est important à entendre parce que cela écarte l'idée d'un Jésus qui se donnerait lui-même comme par un élan généreux. Alors, extrêmement généreux, j'en suis bien d'accord, hein, mais un élan personnel. Cela évite, nous dit Pierre Prigent, hein, donc, dans le commentaire duquel je pioche largement, cela évite toute tentation de ce qu'il appelle la jésulatrie, puisqu'il insiste là-dessus. En Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'engageait. Ça nous évite cette pensée d'un Dieu qui pourrait être finalement un peu sadique, hein, prêt à livrer son fils. Non, c'est en Jésus, c'est Dieu qui se donne. Hein, donc,
oui. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, c'est vraiment...
ces trois aspects d'une même personne, ces trois manifestations d'une même personne, d'un Dieu qui s'engage finalement dans l'humanité pour nous. Alors, les versets 22 à 25, c'est un petit paragraphe qui reprend et développe ce qui a été dit précédemment. Mais ça reprend, mais il ne s'agit pas d'une simple répétition. Ce qui jusqu'ici était dit au Christ en tant qu'individu, ou du Christ en tant qu'individu, est maintenant développé en fonction de la vie en communauté. Hein, donc... c'était valable pour l'individu, ça va être maintenant valable pour la communauté. Au verset 22, il est dit « ayant purifié vos âmes ». Alors, vous vous souvenez, hein, « ayant purifié vos âmes », on disait que dans l'esprit de l'épître de Pierre, les âmes ne sont pas à décrocher, si j'ose dire, du corps. Hein, c'est « vous ayant purifié, finalement, on pourrait dire. Hein. » Donc, de quoi s'agit-il et quel est ce comportement nouveau qui va être induit par cela ? Le verbe purifier dans la Bible est régulièrement référé à la pureté rituelle. Sans doute, Pierre a-t-il voulu évoquer ici le rite qui parle aux chrétiens de pureté, je veux parler bien évidemment du bain baptismal, hein, de ce baptême par immersion qui était célébré à Pâques. C'est en partant de ce bain de purification du baptême que le chrétien s'engage dans une vie vouée à une obéissance nouvelle. Il est question ici d'obéir à la vérité. Alors, obéir à la vérité, ce n'est pas seulement éviter le mensonge, hein, mais dans notre Nouveau Testament, la vérité, c'est quasiment un synonyme d'évangile. Hein, donc, ça signifierait on croit cette bonne nouvelle, on croit cet évangile et on y conforme sa vie. Et du coup, il s'agit là de la sanctification de la vie chrétienne, qui est la conséquence de cette foi en l'évangile. Et donc, ces deux aspects de foi et de sanctification sont indissociables du christianisme. Certains manuscrits ont un ajout obéissant à la vérité par l'esprit. Alors évidemment, là encore, ça réfère au baptême. Hein. Au baptême, l'esprit est invoqué sur le néophyte pour qu'il vienne l'accompagner et le soutenir dans sa nouvelle obéissance. Si donc il est accompagné, soutenu, eh bien, normalement, sa vie devrait s'infléchir vers une sanctification. Alors, je rappelle hein, encore une fois que ça n'est pas une question forcément de perfection morale, même si l'un ne va pas forcément sans l'autre. Mais être saint, c'est être mis à part pour le Christ, hein, pour Dieu.
On ne le dit jamais assez. Voilà. Parce que vraiment, dans la tête des gens, être saint, c'est être parfait. Donc,
absolument, absolument.
Je viens de répéter ça.
Alors, on a le droit de l'être, hein.
Ça
n'empêche pas, ce serait parfait justement, mais c'est bien sûr ça, ce serait la visée ultime, à condition que cette perfection morale, spirituelle, soit déconnectée de tout jugement positif posé sur soi-même, hein, c'est toujours le risque. Hein. Donc, si on regarde dans notre épître de Pierre, ce qui était dit au chapitre 1, au verset 2, hein, on avait quelque chose déjà qui...
Je voulais que je le
oui, ben, ce serait bien, oui, parce que sans doute nos auditeurs n'ont pas en tête forcément ce verset.
Alors, le verset 2.
2, oui.
Alors, élu selon le dessein de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang.
Voilà. Voilà. Donc, cette sanctification par l'Esprit, donc, va conduire à l'obéissance. Hein, c'est pas « je ne me sanctifie pas moi-même, quoi. Hein, je ne me rends pas parfait, c'est l'Esprit qui m'accompagne et qui me conduit, tant bien que mal, sur le chemin de l'obéissance. » Le but donc auquel conduit cette obéissance, eh bien, c'est l'amour fraternel. C'est ça qui est prioritaire. Hein. Donc on en vient hein, à cette foi, espérance, amour. Je disais, Pierre y vient, hein, ben, on y est. L'auteur ne l'envisage, semble-t-il, en tout cas à ce moment-là, qu'entre chrétiens. Hein, c'est un préalable. Et l'insistance qu'il y met... En disant avec constance, ardemment, de tout cœur, etc., indique donc une attitude qui ne doit pas être comme une émotion spontanée, une attraction comme ça, un peu involontaire, mais au contraire, quelque chose de délibérément voulu. Rappelons-nous que le cœur est vu à ce moment-là comme le siège de la volonté, et non des sentiments. Donc si j'y mets tout mon cœur, j'y mets toute mon attention, j'y mets toute ma volonté. Hein, c'est pas un amour superficiel, c'est pas un élan qui peut s'évanouir tout seul, c'est bien un travail, je dirais, de tous les instants. Alors, doit-on en déduire de cette insistance qu'il y avait eu quelques problèmes dans la communauté ? Eh bien... Bon, pourquoi pas, mais en fait, rien d'autre ne permet de le déduire. Par contre, cette insistance pointe la nécessaire fraternité qui seul rend vraiment, véritablement solidaire les membres d'une Église que menace à cette époque un environnement hostile. En effet, en vertu de cette nouvelle naissance qu'offre le baptême, ne forme-t-il pas une nouvelle famille, une famille de frères et de sœurs ? On aurait peut-être bien à méditer sur cette notion de fraternité déjà intracommunautaire, ce serait déjà pas mal, qui nous amène à vivre de cet amour délibérément choisi et mis à l'œuvre. Alors pour nous inviter à méditer ça, nous pouvons écouter ce chant qui dit « Nous sommes un dans un lien d'amour ».
Fitiavana ni fanai inti kirai au amini hirai nun ni fitiavana.
Nous sommes un dans un lien d'amour.
Nous sommes un dans un lien d'amour.
Notre esprit est uni avec l'esprit du Dieu. Nous sommes l'un dans un lien d'amour.
Maintenant chantons tous ensemble et que son amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Tenons-nous par la
Verset 23, il n'est pas question ici de nouvelle naissance, mais de nouvel engendrement. Alors, peut-être qu'il vous apparaît que je joue sur les mots, mais pas tout à fait. Ce n'est pas une si petite différence, c'est au contraire un point capital. Cela signifie que cette nouvelle création est une œuvre divine. Elle, en tant que telle, en tant qu'œuvre divine, elle n'est donc pas soumise à tout ce qui fait de la réalité terrestre quelque chose d'éphémère. Hein, c'est important, il y a quelque chose de l'ordre de l'éternité là-dedans, hein, déjà. La vie chrétienne trouve sa source bien plus haut, elle la trouve en Dieu lui-même.
La source.
Eh oui, la source, il y a la théologienne protestante suisse Lita Basset qui a publié il y a quelque temps un livre qui était intitulé « La source que je cherche » et c'était une manière pour elle de nommer Dieu. Hein, donc voilà, donc cette notion d'amour. Elle est donc, la vie chrétienne, dans le monde des humains, le témoin d'une vérité qui vient d'ailleurs. C'est pourquoi elle doit s'épanouir dans des actes et des sentiments qui ne se conforment pas aux habitudes de la société du temps. Alors c'est un thème, on va le voir, on a déjà commencé à le voir, mais on va le voir encore après. C'est un thème qui revient souvent dans l'épître et qui aujourd'hui devrait aussi nous interpeller. La conduite des chrétiens se remarque, elle fait question, elle devrait faire question positivement plutôt que négativement. Bon, c'est en tout cas ce vers quoi il faudrait tendre. C'est que cette conduite, cette vie chrétienne pose sur terre des signes visibles qui témoignent de ce qu'est la vie que Dieu suscite et qui est éternelle. Cette vie qui ouvre à l'espérance et à l'amour.
Des signes visibles.
Et oui. Mais alors, évidemment, pour Pierre, la question est que dans l'Empire romain, les chrétiens étaient très vite mis de côté, en opposition avec la vie et tous ces cultes divers et variés. Je voyais récemment au musée de Marianne là que il y avait 49 fêtes dans l'année, donc ça faisait 49 occasions, presque une fois par semaine, où les chrétiens ne célébraient pas avec les autres, d'où le jugement qu'on posait sur eux d'être ennemis du genre humain, puisqu'ils ne participaient pas aux festivités qui devaient rendre gloire à une divinité païenne, à l'empereur, à ceci, à cela. Donc ils se mettaient en retrait de la société. Mais on pourrait se dire que nous-mêmes, aujourd'hui, si nous ne nous engageons pas dans une course à l'apparence, toutes sortes d'idoles que nous pouvons avoir aujourd'hui, à l'argent, à tout ça, eh bien nous sommes aussi mis un peu en marge de la société et ça devrait faire question dans le bon sens du terme, d'où aussi les implications d'ordre écologique avec l'Église verte, etc. Toutes ces choses-là qui pourraient interpeller en tout cas nos contemporains sans avoir pour autant l'envie, le désir de faire la leçon. C'est juste vivre ce qui est attendu de nous par Dieu. Et c'est l'Évangile qui en apporte la révélation. Nous, dans la société tout à fait violente et clivée qui est la nôtre, elle est très polarisée à notre époque, à notre société, soumise donc aussi au dictat de l'apparence et autre chose, eh bien, nous savons bien en écoutant l'Évangile, quelle devrait être notre attitude. Au verset 24 et 25, nous avons donc une citation, c'est ce que disait déjà le prophète Ésaïe, voilà ce qui est dit ici. Le texte prophétique parlait de la parole de Dieu, l'Épître corrige la parole du Seigneur. Ce qui, dans la bouche de l'auteur, sous sa plume en tout cas, désigne le Christ. Donc on passe de Dieu au Christ. Ésaïe, en son temps, s'adressait au peuple d'Israël en exil, soumis à l'oppression, et il l'invitait à l'espérance, en lui annonçant au nom de Dieu cette bonne nouvelle qui était que l'ennemi, malgré ses victoires, son pouvoir, sa gloire, sa puissance, tout ça, eh bien, n'est qu'un fragile fétu, destiné comme l'herbe à flétrir. Tandis que ce que Dieu promet, eh bien, peut durer toujours. Pour l'auteur donc de l'Épître, eh bien, le message est transposable pour son temps, le temps de Pierre. le monde menace les chrétiens du haut d'un ordre mondial imposé par l'Empire romain qui semble à ce moment-là tout à fait invincible. Eh bien, nous savons, nous, ce qu'il en a été. Mais pour celui qui sait voir la vérité des êtres et des choses, il n'y a pas de commune mesure entre le pouvoir romain et la puissance de la bonne nouvelle que l'on peut entendre retentir dans l'Évangile et que les chrétiens sont seuls à entendre et à recevoir. Là encore, pour moi, il me semble que c'est un message qui peut nous toucher à nouveau aujourd'hui. Nous sommes menacés, nous nous sentons nous aussi menacés par un ordre mondial imposé par justement une certaine mondialisation, etc. Et pourtant, la promesse de Dieu reste toujours plus forte que ce que l'apparence des choses nous donne à voir. Alors nous allons aller un petit peu plus loin en lisant au chapitre 2 les versets 1 à 3.
Rejetez donc toute méchanceté, toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie, de médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui, vous grandissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon.
Ça, c'est beau.
Oui.
Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ça, j'aime beaucoup. Le développement que nous avons commencé à travailler depuis la semaine d'avant, pas la semaine dernière, puisque nous avions eu le culte, mais la semaine d'avant, se poursuit donc avec ce début de chapitre 2. Et on trouve là, en fait, les conséquences de la régénération. Alors, négativement, oui, puisque c'est une négation, mais c'est bon pour nos vies, hein, renoncer aux vices, et positivement, désirer la nourriture qui fait croître et que Dieu seul peut donner.
Oui, il peut pas cette nourriture au lait.
On voit très bien où ça nous mène. Hein, donc,
oui.
On avait ayant rejeté, alors c'est le même mouvement que ce que nous avons vu précédemment, hein. Ayant fait quelque chose dans le passé, eh bien, nous sommes invités par un impératif à faire maintenant. Donc, ayant rejeté, faites, etc. Hein, le passé dont il est question pourrait être le baptême qui implique une renonciation à une conduite incompatible avec les exigences de l'Évangile. Donc, méchanceté, tromperie, hypocrisie, envie, médisance, voilà qui n'est pas compatible avec une vie chrétienne au sein d'une communauté dont la seule règle est l'amour. Alors moi, ce qui m'a frappé dans cette liste, c'est que ce sont des petites choses. Hein, on aurait tendance à dire, ben moi tout va bien, je n'ai pas tué, j'ai pas volé, mais là on a méchanceté, tromperie, hypocrisie, envie et médisance. Et ça nous guette tous et toutes, à tout moment. Hein, donc,
les petites choses entraînent les grosses, comme disait Jésus, si tu te mets en colère,
et oui.
Eh ben, ça pousse, ça peut aller jusqu'au meurtre.
Et oui, c'est comme si le meurtre était là. Oui, oui, tout à fait. Et donc, tous ces comportements-là, il faut les quitter comme on quitte un vêtement souillé. Hein, ça veut dire qu'on l'abandonne complètement, quoi, on le dépose. C'est là aussi une vigilance, bien sûr, de tous les instants. Hein. On retombe très vite dans nos vieux travers.
Oui.
Au verset 2, donc, une nouvelle allusion est faite à la nouvelle naissance. Hein. C'est pas, c'est encore on a cette répétition, mais qui n'en est pas tout à fait une. Et bien sûr, c'est au baptême qu'on s'engage à vivre d'une manière nouvelle, hein, sachant que à l'époque concernée, c'était surtout des baptêmes d'adultes. Hein, donc,
ça, c'est une question que je voulais vous poser.
Voilà, non, mais tout à fait, puisqu'on s'adresse à des païens. Hein.
Oui,
et puis peut-être que l'habitude était de baptiser à l'âge où on pouvait s'engager. Même si on peut penser que quand une maisonnée entière était baptisée, ce qu'on trouve dans le livre des Actes, les enfants pouvaient l'être en même temps. Hein. Donc, c'est logique que s'adressant à des adultes pour la catéchèse, ce soit des adultes qui viennent au baptême. Cette existence nouvelle commence à ce moment-là. Et comme un nouveau-né, comme vous le disiez, le baptisé sera d'abord désireux d'une nourriture qui lui permette de vivre et de se développer. Donc, bien évidemment, l'idée du lait s'impose.
Voilà.
Au verset 3, il y a donc une citation du verset 9 du psaume 34 qui vient appuyer l'idée que cette nourriture, eh bien, c'est le Seigneur lui-même. Hein. Alors l'Église ancienne y a vu une allusion à l'Eucharistie, bien sûr, mais même si ici, ça ne semble pas être l'idée de l'auteur, mais bon, après, cette idée a pu germer, se développer, on pourrait... Écoutez, si vous voulez bien nous les lire, les versets 13 à 17 de ce psaume 34.
Si quelqu'un aime la vie et désire vivre heureux, il se garde de médire, il se garde de mentir, il s'écarte du mal, il pratique le bien, il recherche la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les personnes qui sont justes, il est prêt à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal afin d'éliminer leur nom de la terre.
On entend quand même quelque part là l'idée que le Seigneur, eh bien, il est là hein, et il regarde, mais il secourt aussi, il s'oppose à ceux qui sont les ennemis finalement. Hein. Il secourt donc toujours les siens dans le danger. Et ici, quand il est question du Seigneur, eh bien, il est certainement question du Christ, puisque c'est le cas ailleurs dans l'Épître. Mais il peut aussi y avoir un jeu de mots dans le texte, sur le texte du psaume, puisque en grec, « bon » est traduit par « Christos », Christos, ah. Qui se prononçait Christos. Hein, donc le Seigneur est bon, ça peut être aussi le Seigneur est Christ. Voilà, voilà que les Grecs se mettent à jouer sur les mots comme les Israélites avec l'hébreu. Hein, alors voilà qui nous donne encore de l'épaisseur à nos textes. Et donc goûter que le Seigneur est bon. Eh bien, c'est certainement découvrir la saveur dans nos vies de cette présence attentive et prévenante. Et moi, je trouve que inviter nos sens, et pas seulement notre intellect, notre cerveau, inviter nos sens à percevoir la présence du Christ, eh bien, je crois que c'est quelque chose qui peut nous parler, qui peut nous rejoindre, qui peut nous toucher. Alors, je vous invite à entendre un Alléluia qui va nous dire quelque chose dans ce sens-là.
Cette émission s'achève. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi avec nous. Et naturellement, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine où notre pasteur continuera à nous guider sur le chemin de cette belle épître de Pierre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je salue Père François qui est aujourd'hui à la manœuvre, à la technique. Et puis, ben, Marie-Odile, nous allons nous dire au revoir, nous aussi, pour nous retrouver.
Mais oui.
À bientôt.
Nous retrouver ben, la semaine prochaine, par exemple, pour poursuivre cette belle découverte. Bonne semaine à tous.